Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Laetitia. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci de m'avoir invitée, je suis très très contente d'être là.
Alors, je t'ai invitée car je t'ai découvert sur Instagram. Je sais pas qui a commencé par suivre qui.
Mais je ne sais pas non plus, je pense que ça a peut-être été un coup de cœur mutuel.
Ouais, je pense, parce que je me suis dit, ah, trop bien, des cosmétiques et tout, ça change. Et en plus, t'as... Comment dire que... La ligne, ton identité plutôt, elle est plutôt. Ton identité, elle est vraiment bien. Ça change. Tu vois, quand on voit New York, etc., bah ça fait. Moi qui n'ai jamais été à New York, je me suis dit, ah, un truc différent. En plus, en Alsace, c'est bizarre, mais vas-y, c'est ok.
Ouais,
Pourquoi pas?
c'est vrai qu'au départ, quand on découvre le concept, peut être un petit peu perturbant. Après, c'est vrai que faire une entrée sur le marché des cosmétiques naturels, c'est jamais simple. Tout simplement parce que maintenant, il y a déjà énormément de gens. Il y a beaucoup de nouveaux entrants chaque année. Donc, pour moi, c'était évident que si je me plaçais là-dessus, il fallait que je réfléchisse et que je donne une identité qui me ressemble et qui ne s'est probablement pas déjà vue. Et j'ai eu de la chance parce que bah, du coup j'ai tapé dans le mille. Il n'existe pas de marque de cosmétiques inspirée de voyages, surtout des voyages faits par sa fondatrice. Et même si on a l'habitude des fois de voir des choses comme les traditions du hammam, du Maroc, ce genre de choses, une collection sur New York, moi j'avais jamais vu. Et c'est ça qui m'a plu et que j'ai trouvé super intéressant.
Moi, t'es sorti quoi, de la masse. T'as mis combien de temps avant de trouver cette idée?
Alors, je sais pas très bien. Au départ, j'avais l'idée de lancer une marque de cosmétiques quand je suis revenue de New York, tout simplement parce que bah, j'ai été bercée pendant quelques mois dans cet esprit d'entreprendre. Et les cosmétiques, ça a toujours été pas forcément une passion, mais quelque chose que j'aimais énormément, toujours voilà, tester des petites choses et tout qui sortent. Après, au début, c'était pas une évidence de faire une identité sur les voyages. Mais quand ça l'a été, en tout cas, quand j'ai réfléchi un petit peu à quelle destination je voulais présenter et là où je voulais emmener les gens, New York, ça a été une évidence parce que c'est la destination qui a marqué le départ de ma vie d'entrepreneur. Donc c'est la première destination que j'ai choisie pour emmener les gens.
Et avant de parler de New York, je voudrais savoir par rapport aux cosmétiques, tu as ouvert ça en 2019,
Alors,
moi.
oui, j'ai commencé à travailler dessus en 2018. Voilà, c'est vrai que moi, je n'ai aucune qualification dans tout ce qui est cosmétologie, hein. Donc, j'ai d'abord dû trouver un laboratoire qui soit compétent dans ce que je voulais faire. Tous les laboratoires ne travaillent pas de naturel, déjà pour commencer. D'autres ne veulent pas forcément travailler avec des petites entreprises. Ils ont déjà leur lot de gros clients. Donc une fois que j'avais fait déjà tout ce démarchage, on va dire, et que j'ai trouvé vraiment un labo avec lequel je me sentais bien, qui était sur la même longueur d'onde que moi, on a pu lancer le développement. Donc ça n'a pas été simple parce que je suis toute seule. Du coup, j'ai dû assurer toutes les missions principales. Surtout faire énormément travailler mon imagination pour définir quel produit j'allais sortir. Et du coup, une fois que tout ça a été fait, j'ai pu faire une mise sur le marché fin 2019, donc juste à temps pour Noël.
Mais moi, je me dis, voilà, tu fais des cosmétiques, etc. Tu te dis, ouais, ça te passionne, tu as le déclic, tu dis, je veux me lancer là-dedans. Et après, arrive le moment compliqué, tu t'y connais pas plus que ça, t'es passionné. Genre, t'es un peu autodidacte des parfums, enfin, je sais pas. Ils te donnent une palette de parfums et tu choisis un combo, etc. Ou toi, ils te donnent des clés, comment on fait un produit type, etc.
Alors, je
Parce
pense
que ça doit être
que.
dur, tu vois, quand tu te connais pas trop.
Ouais, je pense que le plus important, ça a été vraiment de créer une belle relation avec eux parce que ils avaient un gros travail à faire. C'est qu'ils devaient faire l'intermédiaire entre bah, ce que moi j'avais dans mon imagination et le transformer en quelque chose de faisable au niveau cosméto traditionnel. Donc en fait, si tu veux, ça a été plutôt dans le sens, bah voilà, moi, la destination, c'est New York. Moi, j'ai imaginé des produits en rapport avec la culture new-yorkaise. J'ai imaginé quelque chose avec ça, ça, ça dedans, qui doit sentir à peu près ça. Voilà, moi, j'avais déjà mon idée de base. Et eux, leur boulot, ça a été de me dire, bah écoute, tel ingrédient va plutôt avec celui-là. Celui-là, tu devrais l'enlever. Voilà, ça a été d'ajuster. Et après, bah, il y a les tests au niveau des odeurs jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui me convienne à 100%.
Et ça a mis combien de temps de créer le...
Ça, je saurais pas te dire vraiment combien de temps ça a mis, parce que sur les un an et demi où j'ai travaillé, ça s'est fait vraiment de façon progressive. Après, comme j'avais déjà une vision très précise de ce que je voulais, ça a vachement facilité le travail, parce que le laboratoire savait exactement où il devait aller. Après, c'était qu'une question d'ajustement, et ça a été quand même assez rapide. Je crois que j'ai fini, que j'ai testé les derniers échantillons au mois octobre-novembre. Non, octobre, donc le temps un peu de le faire passer à l'entourage pour voir ce qu'ils en pensaient. On les a validés, tout était ok, donc la production a été lancée tout de suite et j'ai pu l'avoir, tu vois, donc en décembre. Donc c'est allé quand même assez vite.
Et moi qui ne suis jamais allée à New York, pour toi ça sent quoi New York alors ?
Alors, non, mais... c'est difficile à dire. Quand on se balade dans les rues de New York, on sent plutôt la pollution et les odeurs de nourriture, vu qu'il y en a absolument partout, à tous les mètres carrés. Donc là où ça a été difficile, moi, qu'on va dire que mon inspiration se développe en plusieurs étapes. D'abord, c'est les questions, qu'est-ce qui pour moi est typique de la culture new-yorkaise ? Qu'est-ce que les New-Yorkais ont l'habitude de faire ? À quelles choses ils ont l'habitude d'être attachés ? Donc ça a été le premier point de départ. Par exemple, quand j'ai sorti le spray sur le Cosmopolitan, j'avais envie d'aborder le côté nocturne de New York, parce qu'elle a quand même la réputation de la ville qui ne dort jamais, c'est la vérité. Et c'est vrai que les New-Yorkais accordent énormément d'importance aux moments passés entre amis, principalement le soir, parce qu'ils travaillent énormément, ils commencent très tôt le matin, et du coup, le moment où ils peuvent se voir, c'est souvent le soir. Donc voilà, donc déjà la base de l'inspi était posée. Après, le Cosmopolitan, évidemment, puisque c'est le cocktail emblématique de la ville. On le voit dans toutes les séries, dans tous les films. Et c'est vrai qu'ils sont très, très attachés à cette tradition. Et pour en avoir, bien sûr, consommé là-bas, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver ici. Donc, à partir du moment où je voulais faire quelque chose sur le Cosmo, donc j'ai dit à mon labo, voilà, moi j'imagine un produit autour du Cosmo. Ça doit être comme un Cosmo, ça doit être rafraîchissant, ça doit être agréable, ça doit être un peu sucré, un peu acidulé. D'où l'idée du spray, voilà, rafraîchir et apporter un peu du tonus. Et dans le spray du Cosmo, on retrouve, à part l'alcool, tous les ingrédients d'un Cosmo. Donc le cranberry, le citron vert, l'eau de rose, c'est plus pour la couleur. Mais voilà, le but, c'était que quand on sente le produit, on sente le Cosmo. Donc ça, pour ce pari, il a été quand même plutôt réussi. Et pour l'autre produit que j'ai sorti au tout début, donc le sérum, ça, je voulais vraiment faire référence à l'hiver new-yorkais qui est très rude. Mais quand on parle un petit peu aux new-yorkais, moi, je sais, j'ai en mémoire des discussions que j'avais, parce que je vivais en coloc avec des purs new-yorkais. Et je leur disais, mais c'est pas trop dur quand même. Voilà, l'hiver, bon, il neige, c'est vrai que c'est joli, hein, mais vous trouvez des activités à faire, parce que bah, du coup, toutes les activités en plein air et tout, vous pouvez pas le faire, quoi. Et je me souviens qu'il m'avait dit, mais en fait, non, c'est la période qu'on préfère parce que la chaleur qu'on ne trouve pas dehors, on essaye de la trouver autre part. Et c'est la période de l'année où, justement, on va vraiment faire en sorte de voir nos amis. Il y a toutes les fêtes familiales, les fêtes de fin d'année qui rassemblent et qui apportent ce côté chaleureux. Et du coup, ils m'ont dit, c'est vraiment ce qu'on préfère, quoi. Donc, le sérum a été vraiment fait pour raconter un peu cette histoire d'hiver, de fêtes de fin d'année, de célébration. Avec les deux grosses fêtes, voilà, new-yorkaises par excellence, donc Thanksgiving, qui est quand même voilà, très présent là-bas, ils en font tout un pataquès pour eux, c'est très très important, et Noël qui joue un rôle très important à New York, parce que la ville est complètement métamorphosée, et puis chaque personne qui suit un petit peu les films ou quoi, en général, un film sur deux de Noël, il se passe là-bas, parce qu'il y a une magie particulière à ce moment.
T'étais à Noël ?
Alors moi j'y suis allée juste après, mais j'ai eu de la chance, c'est que j'avais du coup des amis qui eux sont partis avant, qui ont pu me raconter tout ça, et le fait d'avoir parlé à des purs new-yorkais, ça a beaucoup aidé. Je voulais vraiment quelque chose qui soit en adéquation avec leur culture de là-bas.
Et là t'as un troisième produit là ?
Alors pas encore, j'y travaille, voilà le but pour moi, c'est vrai que quand on démarre c'est difficile, hein. On a envie de sortir tellement de produits, mais bon il y a le côté financier, le côté pratique qui nous rattrape toujours, donc voilà je voulais vraiment avoir une gamme complète et du coup là je travaille sur le développement d'un troisième, donc toujours dans la collection New York. Donc j'ai plein d'idées, hein. Ça va probablement tourner soit autour du café, il y a le cheesecake qui est pas mal aussi, le cookie. Enfin, toute la gourmandise qu'on peut retrouver là-bas. Après, je sais pas encore quel produit je vais sortir. J'ai récemment là, fait un petit sondage auprès de mes abonnés, de mes clients, pour savoir...
Moi, j'ai répondu, mais je suis HS, j'ai dit jojoba.
Non, mais ça, ça va, c'était pas HS, c'était, ouais. C'était pour savoir quels produits les gens ouais. utilisaient principalement. Après, voilà, dans le résultat des sondages que je publierai d'ailleurs la semaine prochaine, il y a des tendances qui sont sorties. Il y a beaucoup de gens qui attendent avec impatience une crème hydratante, tout simplement parce que c'est le produit de base, hein, ça rassure les gens. C'est ce que la plupart des gens ont l'habitude d'utiliser tous les jours. Donc pour un aspect pratique, ce serait le bon plan, parce qu'au moins on est sûr que les gens vont acheter. Après, pour le côté new-yorkais, moi, j'étais plus partie sur quelque chose comme un exfoliant ou un masque que je trouvais plus sympa. Et voilà, on a tous au moins le souvenir de la new-yorkaise qui est dans son lit à faire son petit masque. Je trouve que ça se raccrochait plus à ce qu'ils vivent là-bas. Après, voilà, il va falloir trouver un compromis. De toute façon, les produits vont sortir. Le but, c'était juste de savoir quel produit va sortir avant l'autre. Donc, si je suis tout le monde, la crème devrait sortir bientôt. Quelques ajustements, on va voir un petit peu où est-ce que les gens ont envie de partir. Est-ce qu'ils ont envie d'un truc gourmand ou plus quelque chose de léger pour l'été ou quoi. Ça va rester à travailler.
Mais t'es très proche de ta communauté, je trouve ça trop bien. Tu l'as fait participer, etc.
Ouais, bah ça, c'est important pour moi. Alors bien sûr, hein, on vend à quelqu'un, donc c'est important que les personnes qui sont susceptibles d'acheter soient en adéquation avec ce qu'on fait. Après, comme je te l'avais dit quand on s'est rencontrés, moi quand j'écris Cosme Story, vu que c'est inspiré de mes voyages et de mes expériences personnelles, je mets énormément d'implication bah, du coup, personnelle dans ce projet. Et voilà, quand moi j'offre un produit à quelqu'un, c'est comme si je lui donnais un bout de mon histoire, un bout de mon vécu. Donc instantanément, il y a une création qui se fait, il y a un partage qui se crée. Et voilà, quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, il y a un lien. Et le but, c'est d'entretenir ce lien. Parce que quand on parle de voyage, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde en général. Et voilà, n'importe qui, quand il voyage, il adore revenir, raconter ce qu'il a vécu. On est tous d'accord pour dire que c'est une question d'émotion. Et voilà, l'émotion crée du lien. Et pour moi, c'est très, très important de chérir ce lien.
Toi, tu as découvert New York grâce à tes études?
Ouais, j'ai eu la chance d'avoir une école partenaire, voilà, une école qui proposait énormément de voyages et d'échanges à l'étranger. Moi, quand je suis rentrée en première année, pour moi, c'était clair. À la base, j'avais choisi cette école parce que bah, y avait New York en dernière année. Donc voilà, ça a été dur, ça n'a pas toujours été facile pour pouvoir y aller, mais je suis bien contente d'y être allée. Et du coup, j'ai pu vivre 4-5 mois là-bas à temps plein, quoi.
C'est pas bizarre de partir? Tu sais pas, t'es de Strasbourg?
Moi, je suis de Strasbourg, j'étais déjà partie... Alors moi, j'ai toujours voyagé énormément dans ma vie, j'aime bien bouger. Mmh. Après, j'avais déjà été préparée en troisième année quand j'ai fait mon bachelor. J'avais fait un bachelor en marketing. Et du coup, j'étais partie à Dublin. Et ça, c'était pour un an. Donc, c'était très long, mais c'était très cool aussi. Et voilà, donc j'ai déjà vécu, on va dire, un peu loin de chez moi. Après, New York, c'était très particulier parce que quand je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Il y a trop de choses qu'on connaît, qu'on avait l'habitude de voir. Ça semble tout de suite très familier. C'est une ville très accueillante, très chaleureuse. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'étais dans mon monde. J'étais dans ma bulle. Et j'ai vécu d'ailleurs très très mal mon retour. J'ai fait un... Je sais pas si on peut appeler ça un mal du pays, mais plutôt à l'envers, tu vois. Genre quand je suis arrivée, j'étais dégoûtée. J'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner, quoi.
Ça m'a fait pareil quand j'étais allée à Londres, mais j'étais allée à Londres pas longtemps, hein, genre j'ai fait 15 jours d'immersion totale, école, etc. Et j'avais tellement envie de rester. Quand je suis revenue en France, oh, j'étais tellement dégoûtée.
Mais c'est ça, je pense que voilà, après ça dépend des... Après, je connais des gens qui, voilà, New York, ils n'ont pas forcément
c'est spécial,
accroché. Hein. C'est spécial et je pense que ça se fait beaucoup aussi en fonction de l'identité, de la personnalité de chacun. Quoi. Moi, ce que j'ai adoré là-bas, c'est cet esprit de liberté, la façon de penser des gens qui sont à l'opposé de ce que nous, on a l'habitude de penser ici. C'est un état d'esprit et une ambiance dans laquelle je me suis sentie à l'aise. Chose que j'avais pas forcément retrouvée dans ma vie de tous les jours, on va dire. Après, je sais pas si c'est le fait d'être loin. Donc, tu te sens un peu pousser des ailes, tu te dis, bon, je suis pas chez moi, alors je peux voilà, faire peut-être tenter plus de choses, je ne sais pas. Mais je me suis sentie tout de suite très, très bien. En plus, je suis partie avec mes amis avec qui j'étais à l'école depuis 5 ans. Donc, du coup, ça ne pouvait que bien se passer. Et voilà, c'est des très, très beaux souvenirs.
Et eux, ils vivent comment l'échec en Amérique ?
Ils ont une vision très... ils ont une vision complètement à l'opposé de chez nous, parce que pour eux, l'échec n'est pas quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, c'est pour eux, l'échec est une case par laquelle tu dois passer pour arriver à la réussite. Et en cours, c'est ce qu'on nous apprenait, hein. On disait toujours, mais tentez, essayez, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, vous échouez, il se passe quoi?
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Rester en se disant, mince, j'aurais pu tenter ça, mais au final, je ne saurais jamais.
Attends.
Ça bug?
Non, je sais pas. Et les New Yorkais, ils... putain, j'arrive même pas.
Vas-y, attends.
Attends, je disais quoi là? Ouais, en Amérique, ils vivent comment l'échec?
Alors du coup, en Amérique, ils ont une vision de l'échec qui est très différente de la nôtre, parce que pour eux, l'échec est une case à franchir pour arriver à la réussite. D'ailleurs, à l'école, ça, on nous l'a répété plein de fois, c'était vraiment, mais de toute façon, franchement, vous avez quoi à perdre? Mais tentez! Vous préférez quoi, rester là et ne pas savoir ce que ça aurait pu donner, ou y aller au risque de se prendre des claques? Et puis au final, les claques, c'est ce qui permet, c'est vrai, c'est ce qui permet de se forger et de toujours faire mieux. Donc voilà, ils ont une vision très différente de là-dessus. D'ailleurs, je sais que dans les nombreuses études de cas qu'on devait faire, de toute façon, quand on s'intéresse un petit peu aux entrepreneurs américains, pour ne pas les citer les plus connus, moi je pense tout de suite à Apple, à Ben & Jerry's, à Starbucks, ce genre de choses, toutes les personnes qui en sont là où ils sont aujourd'hui, si on remonte dans leur historique, ils ont tous été au fond du trou, à un moment donné. Alors, soit parce qu'ils n'avaient pas d'argent, soit parce que personne ne croyait en eux. Ils se sont tous retrouvés au sol. Et dans la culture américaine, c'est justement ce principe-là. Est-ce qu'on n'est pas justement obligé d'un jour toucher le fond pour pouvoir... Parce que de toute façon, quand tu as touché le fond, tu ne peux que remonter.
Ouais, normalement.
Donc voilà, ils ont absolument pas du tout de scrupules à parler de ça. Hein. En France, quand quelqu'un a échoué, c'est bon, hein, la personne est catégorisée. Elle est nulle, de toute façon, on le savait, elle n'arrivera à rien. Puis c'est fini pour elle. Hein. On l'avait dit, c'est fini pour elle, elle peut rentrer chez elle et voilà, c'est fini. Alors que là-bas, non. Et il y a toujours un côté de la culture new-yorkaise qui, moi... où je trouve que c'est intéressant de faire le rapprochement, c'est que, par exemple, aussi ici, quand quelqu'un a un boulot, et que pour X raisons, il se retrouve sans boulot, c'est le drame. Ouais. Sa vie est terminée, on le prend pour un moins que rien, alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. C'est très commun de voir quelqu'un qui va changer de boulot du jour au lendemain. Il va aller un petit peu dans ça, puis le jour où il est plus là-bas, bah, c'est pas grave, il rebondit, il va là-bas. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas du tout chez nous. Et le fait d'être entouré de gens qui fonctionnent comme ça, on a tendance à se dire « Ouais, mais au final, rien n'est jamais grave dans la vie. » Et personne n'est limité à un terrain, une case. Au contraire, on peut toujours rebondir, quoi.
C'est vraiment ce message que j'aimerais faire passer, que rien n'est grave, en fait.
Je pense qu'il est important. Je pense que, surtout dans le milieu dans lequel j'évolue, il y a énormément de gens qui se lancent et qui se mettent une pression, mais monumentale, parce qu'ils ont envie de coller à l'image de l'entrepreneur qui se faisait. Que tout le monde a.
Mais que voilà. Personne parle.
Dont personne ne parle, c'est vrai. Parce que chez nous, l'entrepreneur, c'est forcément quelqu'un qui a réussi. C'est forcément quelqu'un qui a confiance en lui, qui est à l'aise dans tout ce qu'il fait, qui réussit tout ce qu'il fait, qui transforme en or tout ce qu'il touche, ou qui a des millions qui tombent du ciel. Mais c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas.
L'image est plus sexy, tu vois.
Ah ben bah ça c'est clair.
C'est tellement plus sexy.
Ah ben bah, c'est clair. Ouais. On préfère tous suivre quelqu'un comme ça que quelqu'un qui a pas... Voilà. Mais au final, c'est un peu faux.
Un peu ?
C'est totalement faux, en fait. Ouais. Ça reflète pas la réalité.
Mais je crois qu'on a... En fait, j'ai cette vision de... C'est pareil que la femme enceinte, tu vois. Tu peux pas dire aujourd'hui aux gens qu'être entrepreneur, c'est tellement difficile que tous les jours, tu te demanderas pourquoi tu fais ça. Et comme les femmes enceintes, tu peux pas te dire j'ai vécu... Enfin, j'ai vécu... Elles ont vécu parce que j'ai pas d'enfant. On aseptise un peu la grossesse. Et je pense que les femmes qui ont vécu des grossesses atroces et des accouchements atroces ne veulent pas le dire, en fait. Tu vois, pour garder ce petit mystère.
Ouais, c'est possible.
J'ai l'impression que ça... Tu vois, ça ressemble un peu, tu vois. Genre,
ouais, mais...
Parce qu'on accouche aussi d'un bébé, hein, dans les deux cas, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. Après, c'est sûr que si on disait tout ce qui se passait, peut-être que ça découragerait certains de se lancer. C'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Moi, voilà, quand on me demande, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est... Voilà, déjà, il ne faut pas juger le projet de quelqu'un.
Non,
déjà, pour commencer, chacun fait ce qu'il aime, déjà, pour commencer. Et ce que je dis toujours, c'est, si tu le sens, vas-y. Et de toute façon, personne n'a le droit de te dire que ce que tu fais, ça ne marchera pas, que tu n'es pas capable d'y aller. Il n'y a que toi qui pourras le savoir. Donc, vas-y. Par contre, il faut que pour moi, tu sois au courant de certaines choses. Mmh. Et ça, je ne le cache pas. Ça va être dur, c'est clair. N'importe quelle personne qui va te dire que c'est facile, c'est pas du tout... C'est pas vrai. Ou alors, elle a eu un traitement de... Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça va être dur. Ça va demander du travail, ça va demander des sacrifices, ça va demander de l'implication personnelle. Ça va demander aussi... d'être capable d'être le sujet de tous les jugements. Parce qu'en étant entrepreneur, on sort du cadre.
Okay.
Voilà. En France, c'est un cadre. C'est pour réussir dans la vie, il faut que tu aies un emploi, il faut que tu gagnes bien, il faut qu'il y ait à la limite la maison qui va derrière, la belle voiture. Enfin voilà, on est très catégorique là-dedans. Et il faut être prêt aussi à se prendre des réflexions. Parce que des réflexions, il y en a tous les jours.
T'en as eu, toi ?
Ah oui, moi j'en ai eu plein.
Et ta famille, elle te soutient ou...
Ma famille me soutient maintenant. On va dire que c'est... Je pourrais pas dire qu'elle m'a pas soutenue. C'est la mentalité française. On est dans la sécurité. On s'avance pas trop. Par contre, au fur et à mesure, quand ils ont vu que, en fait, j'allais pas lâcher l'affaire, que c'était pas juste une idée qui m'est venue, on sait pas d'où, quand ils ont vu que je m'impliquais, que, en fait, j'ai placé Cosme Story au summum de mes choix de vie et de mon implication, là, ils ont commencé à se dire... Ouais, en fait, elle rigolait pas. Et comme ils me suivent, ils commencent à voir aussi tous les efforts que je fais. Et ça, et c'est vrai que voilà, je suis qu'au tout début, mais ça commence à porter ses fruits. Et donc, comme ils voient un peu que ça se profile de façon bénéfique pour moi, là, ils me soutiennent de plus en plus.
Ouais.
Après, les parents, c'est la famille, c'est délicat. Je pense qu'ils ont toujours peur. Parce que quand on... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas encore parent, mais j'imagine que quand on est parent, ce qu'on souhaite, c'est la réussite et le bonheur de ses enfants. Donc, c'est sûr que quand les enfants prennent le chemin de l'insécurité, bon, c'est difficile aussi, je pense.
Moi, ça dépend. Je sais que mes parents, ils me soutiennent vachement, même quand là... Enfin, là, ça va mieux parce que j'ai fait page blanche, mais j'ai le... Voilà, des fois, quand on fait des sociétés, beaucoup de sociétés ont fait page blanche, mais des startups ont fait page blanche. Et c'est dur de faire page blanche, en fait, quand tu as fait des centaines d'heures et que tu te dis, en fait, c'est pas ça, en fait, faut que je fasse autre chose. Et mon père, il m'a dit une phrase pendant le confinement. Ça a été la phrase qui m'a percutée. Et je me suis dit, oh my God, ça m'a remis en place. C'était autre... On va dire que le médicament, il a été douloureux, comme dirait Steve Jobs. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, si tu réussis pas, c'est parce que tu crois pas en ce que tu fais. Et peu de personnes croient en ce qu'ils font, en fait. Mais il me l'a dit, mais il me l'a dit d'une façon très dure, là. J'étais gentille, tu vois. Avec dur et avec le regard, et en mode, meuf, si tu fais un truc, t'y crois et t'y vas, en fait. T'arrêtes de me poser des questions, là, qui servent à rien, et tu te tais, en fait.
Je pense qu'il a raison, parce que je fais partie des personnes qui pensent que si tu n'as pas cette ambition-là, en tout cas, si tu n'as pas le courage et si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas y arriver, parce qu'en fait, c'est trop dur.
Ouais, c'est trop dur.
C'est trop dur. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, hein, c'est trop difficile, mais si tu n'y crois pas, mais comment tu peux y arriver ? Déjà, comment tu veux que les gens y croient en toi si toi, tu n'y crois pas ?
C'est impossible.
Et puis, tu es obligé de t'attacher à ça, sinon tu n'arrives pas. Tu ne peux pas arriver jusqu'au bout de ton idée. Faut être convaincu, pas convaincu forcément que ça va marcher, mais il faut se dire, je vais, en tout cas, tout faire pour que ça marche. Je vais me donner tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Si ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave, ça veut dire que bah, c'était peut-être pas le bon moment. Question de timing, où j'étais peut-être pas assez mature, j'étais pas assez prête ou pas assez préparée ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut jamais se dire ça n'a pas marché parce que bah, j'aurais pu faire ça ou j'ai pas fait ça. Je suis pas allée au bout. Ça, je pense que c'est le plus important.
C'est une aventure. À mes yeux, c'est une aventure.
Ouais.
L'entrepreneuriat n'est pas gage de réussite, sachant que 90% juste des startups ferment.
Bien sûr. Bah ça donne pas envie quand on voit ces chiffres.
Mais personne.
Mais faut se dire aussi qu'il y a quand même 10% qui vivent un truc magnifique.
Mais non, pour moi les 100% vivent des trucs magnifiques, tu vois.
Oui.
Mais
avec
les 10%,
une finalité voilà. Un peu plus positive, on va dire.
Mais ça se trouve ça les, tu vois, ils vont faire page blanche sur d'autres projets, etc. Donc je me dis la finale, c'est pas genre c'est fini, tu vois.
Bien sûr. De toute façon, rien n'est jamais définitif dans la vie.
Non. Ouf. Sauf pour les gens qui se lamentent et qui disent je suis qu'une merde, c'était nul et tout. Non, vas-y, prends ta période où t'es pas bien, on l'a tous eu. On s'est dit c'est
après
nul.
Tu vois, je pense que c'est aussi une question de génération. Voilà, on a le même âge toutes les deux, donc ça devrait te parler ce que je vais te dire, mais nous on est dans une génération où voilà, on aime beaucoup on prend déjà plus de risques et on n'a pas peur du changement. Ça veut dire que voilà, avant, on va dire nos parents, nos grands-parents et tout ça, ils allaient dans une entreprise très jeune et ils y restaient toute leur vie. Nous, on n'a pas peur de voilà, rester un an, deux ans, partir. On n'a pas peur de faire des milliers de kilomètres pour aller bosser, pour vivre de nouvelles choses. Ça, je pense que... Question de mentalité aussi.
Ouais, on est en quête de sens.
Ouais, je pense qu'on se pose plus de questions qu'avant et qu'on recherche d'autres choses. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai compris qu'en fait, dans ma vie, je cherchais pas la sécurité. Alors, bien sûr que plus tard, j'ai envie d'avoir, on va dire, une vie stable, évidemment. Mais avant d'avoir une vie stable, franchement, moi, j'ai besoin de me challenger, d'aller au bout de moi-même aussi, de ma personnalité, de voir jusqu'où je peux aller. Et ça, je l'ai remarqué quand j'ai fait des expériences professionnelles avant de me lancer. Et que j'ai vu que j'étais la plupart du temps enfermée, que j'étais pas libre de... En fait, j'étais pratiquement même pas libre de mes pensées, en fait. On me disait, tu fais ça, et c'est tout. Et moi, j'étais trop bridée, c'est quelque chose qui m'allait pas. J'étais très très malheureuse, toutes mes expériences, on va dire, hein, je les ai très très mal vécues, parce que j'avais l'impression de pas trouver de sens à ce que je faisais. Et pour moi, c'est essentiel pour être épanouie dans ma vie. Encore une fois, ça dépend des gens, des personnalités. Mais moi, je ne le savais pas avant. Mais depuis que j'ai commencé, en tout cas, à faire ce que je fais, pour moi, il n'y a pas de doute.
Mais genre, quand t'as eu un boulot de salarié ou juste les stages, ça t'a déjà saoulé?
Non, j'ai fait plusieurs boulots et rien que les stages, en fait. Hein,
Parce que
non.
Des fois, les stages, ça calme.
Ah, mais les stages, oui. Ouais, mais d'ailleurs, ouais, si je peux dire un mot là-dessus, moi, je trouve que chez nous, c'est une catastrophe, quoi. On prend des stagiaires juste pour ne pas... Si je peux dire, je sais pas si on va me taper sur les doigts si je dis ça.
Non, mais tout le monde le sait, vas-y.
Non, mais tout le monde le sait, là, tu dis. On prend des stagiaires pour faire des économies sans vraiment leur apporter de la valeur ajoutée. Moi, j'ai eu énormément de demandes pour avoir des stages et j'en ai pas pris à l'heure aujourd'hui parce que je leur avais tous dit, franchement, ça serait un plaisir, mais je ne vois pas ce que je vais pouvoir te faire faire. Si c'est pour que tu sois là pour faire le boulot que j'ai pas le temps de faire, non. Attends un petit peu que je puisse prendre de la maturité, que je puisse déjà analyser ce que je peux t'apporter. Et voilà, le jour où je prends un stagiaire, c'est vraiment pour faire une équipe.
Oui, parce que...
C'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter, mais je veux que ce soit aussi quelqu'un pour qui je vais pouvoir lui apporter des choses qui soient en accord avec ce qu'il a envie de faire aussi. Voilà, pour moi, c'est le but d'un stage. Et c'est surtout parce que j'ai eu des expériences négatives que j'ai pas du tout envie de reproduire le schéma, quoi.
T'as une anecdote de stage?
J'ai une anecdote de stage... Je sais pas trop.
Un peu, t'es dit, laisse tomber en fait, je vais devenir entrepreneur en fait. Parce que
une anecdote peut-être où j'avais été embauchée dans une grosse boîte dans le coin, où je pensais que j'allais avoir un poste génial, qui comprenait énormément l'aspect commercial, événementiel, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée à faire de l'administratif pendant 6 mois.
Oh non.
Et c'était dur parce que, c'était dur parce que j'étais quand même en année de licence, je pense qu'on a quand même dépassé. Alors, je crie pas. Hein. C'est, l'administratif, c'est un métier. Il hein. Y a des techniques. C'est non, hyper chaud. Hein.
À un moment, mais, quand on vend un truc de terrain...
Voilà. Moi, j'étais pas là pour ça. Voilà. J'étais là pour une mission bien précise. J'avais un projet. Et donc, voilà, j'étais censée évoluer dans l'entreprise et en rapport avec ce que j'avais prévu, en rapport aussi avec mes études. Mmh. Et j'ai pas du tout fait ça, quoi. Et je sais que je me souviens que j'avais eu un stage de 6 mois. Et ça avait été horrible parce que j'étais pas bien, mais forcément je faisais un truc qui me plaisait pas, donc c'était dur de le cacher. Et voilà, je crois que c'était la première expérience où les gens aussi qui me chaperonnaient n'étaient pas du tout, enfin pas trop contents de moi, mais c'est normal, j'étais pas du tout épanouie, je me donnais pas à 100%, mais parce que je trouvais pas du tout de sens à ce que je faisais, quoi.
Mais même la mission vendue à la fin, je suis désolée, il y a quoi être frustrée en fait, et pas vouloir travailler convenablement.
Alors j'y suis allée, bien sûr, mais j'étais vraiment...
Reculant,
j'étais vraiment très frustrée, ça m'a gâché l'expérience, et c'est dommage parce que, voilà, moi je suis quelqu'un de plutôt dynamique... Ouais, j'y vais,
mais
quoi.
Je pense que t'es pas le profil à rester, je suis désolée. L'administratif, c'est cool pour ceux-là qui veulent faire ce métier, mais t'as pas l'air d'avoir un profil à rester derrière un bureau.
Ah non, pas du tout. Mais après, voilà, moi j'ai un profil beaucoup plus créatif. Moi j'aime bien, être dans l'action, être dans... Voilà, c'est comme... toi qui as étudié un peu le marketing... Quand on prend le marketing, il y a plusieurs rôles à jouer. Moi, je sais que voilà, toute la partie sur les études et tout, c'est pas le genre de truc qui me branche. Moi, je veux être dans la planification, dans le côté stratégique, quoi, le côté qui bouge. Et c'est vrai que voilà, je trouve que dans l'administratif, il y a des gens qui font d'ailleurs des formations en rapport avec ça et qui ont appris des techniques et tout ça qui peuvent valoriser en faisant des stages. Moi, personnellement, il n'y avait aucune valorisation à faire ce que je faisais. Et j'ai vite compris qu'en fait, j'occupais un poste pour dépanner, pour aider. Alors bon, j'adorais, heureusement, j'adorais les gens avec qui je travaillais, mais malheureusement, ça ne faisait pas tout, et du coup, moi, j'ai été... Après, on est déçus de soi-même aussi, parce qu'on se donne pas à 100%, on paraît pour quelqu'un, et on sait qu'on n'est pas cette personne, on sait que c'est pas du tout représentatif de qui on est au quotidien, Mais à un moment, c'est donnant-donnant. Si toi, on ne te donne pas la chance de t'épanouir et d'être qui tu es, ben, il ne faut pas attendre des miracles non plus de l'autre côté, quoi.
Ouais, donc tous les potes entrepreneurs là qui me disent « Ouais, je prends des stagiaires, attention, hein. On vous guette hein. !»
Ils ne sont pas tous méchants, hein. Il y en a, ils ont quand même, la plupart ont quand même un bon fond, heureusement.
Il y a même des boîtes, je me suis dit « Putain, j'aimerais bien être stagiaire chez eux, tu vois. »
Ah ben c'est clair.
Alors, dans ton aventure de Cosme Story, est-ce que tu as eu des moments compliqués?
Ouais.
Non mais, si tu veux...
Non, ouais, j'ai eu des moments compliqués.
On parlait d'un... T'as une résilience, tu vois, t'es arrivé à trouver un truc positif et tu t'es dit, ouais, j'ai tellement de gratitude pour ce moment, même si ça a été compliqué.
Je pense qu'un des moments les plus durs que j'ai vécu, c'était un petit peu après que j'ai commencé, une fois que le projet était un petit peu lancé. Déjà, c'était très frustrant parce qu'il y a beaucoup de travail engagé. Mais voilà, on fait des choses, mais on est aussi tributaire de certains autres, donc on est dans l'attente. Et en fait, l'attente, il n'y a rien de pire pour remettre en question. Moi, quand j'étais dans l'attente, justement, mon cerveau, il travaillait 10 000 fois plus. Et alors là, c'était fini. Ah, mais ça, en fait, c'est pas si bien. Je vais changer. Si... Et j'ai commencé à vouloir tout changer. Et je ne savais plus du tout. C'était complètement le bronx dans ma tête. Je ne savais plus du tout, je savais plus du tout quoi faire, en fait. Et j'ai eu un espèce de... Je sais pas comment je peux appeler ça, un bad mood. Je me suis retrouvée vraiment dans une situation où j'ai commencé à pas être bien. Alors il y a plusieurs choses. Après, par la suite, j'ai analysé, j'ai compris plusieurs choses. Au début, j'étais très mal. J'assumais pas du tout ma position. Et le regard des autres, c'était quelque chose de très difficile pour moi. Parce que déjà, quand on me demandait ce que je faisais, j'avais du mal à répondre. Je suis entrepreneur et j'ai une marque de cosmétiques. J'ai créé une marque de cosmétiques qui s'appelle Cosme Story. Moi, j'étais là, je me renfermais, j'étais là, je suis dans l'entrepreneuriat. Et après, c'était genre, allez, change vite de question parce que j'ai pas du tout envie de m'attarder là-dessus. En fait, le regard des gens, au début, j'accordais énormément d'importance. Et ça a été très difficile au début. J'assumais pas. J'assumais pas aussi d'avoir choisi un autre chemin que la plupart des gens que je fréquentais. Parce que, voilà, la plupart, c'était, il y avait l'image de, oui, t'es entrepreneur. Donc, en gros, tu passes ta journée sur Instagram, tu fais rien de ta vie. Enfin,
ça, c'est un délire aussi.
Voilà, voilà, souvent, c'était sur le ton de la rigolade. Mais c'est vrai que, comme c'était quelque chose de nouveau, c'est un statut aussi, il faut un peu de temps pour s'y habituer. C'est un chamboulement total dans ta vie. Il n'y a rien qui est similaire à ça. Hein. Donc, du coup, on va dire que, ouais, cette période où j'étais un peu, je savais pas plus trop qui j'étais, il fallait que je me familiarise un peu avec la nouvelle Laetitia, celle qui était entrepreneur, qui avait créé quelque chose et qui était plus l'étudiante, voilà, qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire de sa vie, tout ça. J'ai dû aussi prendre énormément en maturité, parce que avant j'étais un peu good vibes, on s'en fiche, enfin pas on s'en fiche de tout, mais rien d'importance, on se laisse aller, et là j'ai dû apprendre ce que c'était la maturité, jauger, prendre des bonnes décisions, bien sûr se planter, mais voilà, il fallait que j'ai un cadre, que je m'impose un cadre, et au début ça a été très très difficile. Après, juste après, j'ai eu la période où je pense que tous les entrepreneurs l'ont eu, hein, la période où on a l'impression que ce qu'on fait c'est naze.
C'est normal.
Voilà. Donc j'étais là, ouais, mais ce que je fais en fait c'est nul, les gens ils vont pas aimer, d'ailleurs moi j'aime pas non plus, voilà, ça, enfin voilà, tout un...
En fait c'est le creux, il y a une vague où ça monte... Parce que tout le monde, ouah, tu fais ça et tout, donc ça commence un peu à pulser.
Ouais, c'est ça.
Et après, t'as une vague descendante, et là, c'est le creux. Et là, tu fais...
Ah, mais là, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je me souviens, il y avait des fois où... Bon, ça, voilà, je l'ai pas dit à beaucoup de gens, hein, mais... voilà, il faut être humain et il faut accepter aussi la réalité du truc. Moi, il y a eu des fois où j'ai arrêté de bosser et j'ai pleuré, mais pendant des heures dans mon lit. Hein.
Mais ça, c'est hyper classique. Hein.
Mais après ?
Mais tout le monde le dit pas. Non. C'est hyper classique.
Mais je veux dire, ça m'est arrivé mais plein de fois. Mais parce que j'étais arrivée à un moment où j'avais tellement de pression que voilà, il y a des gens, ça se manifeste autrement. Mais moi, voilà, ça se manifestait comme ça chez moi. J'avais besoin de, pendant une heure ou deux, me laisser aller craquer. Après, selon moi, c'est là où on voit quelqu'un qui a un bon mental et qui est fait pour ce job ou pas. C'est est-ce que tu vas avoir la capacité de laisser ça pour ce moment ? Voilà, ça, c'était mon moment où j'ai craqué. Mais... ça va me servir pour rebondir et je vais utiliser ça pour justement être plus forte, ou est-ce que je vais laisser ça m'atteindre et ça va être fini et voilà, je vais rester sur cette onde négative et puis tant pis. Mais c'est trop dur en tout cas de remonter la pente. C'est difficile hein, de...
En fait, c'est là où tu vois où c'est vraiment un projet qui tient à cœur ou c'est juste un délire, tu vois, d'une soirée.
Mais je me souviens, tu as raison, je me souviens qu'une fois, alors je sais plus si c'était avec des amis ou avec ma famille, mais quelqu'un m'avait dit « Oh, mais de toute façon, ça te passera bien. »
Et dans 6 mois,
t'es. Et moi, j'avais rigolé, quoi. Moi, je rigolais toute seule. Et c'est vrai que mes parents, enfin, surtout ma mère me le disait tout le temps, m'avait dit « Au final, Laetitia, voilà, ça nous étonne pas trop, parce que depuis que tu es toute petite, quand tu as décidé d'avoir un truc, mais c'était limite insupportable, il fallait que je l'aie. Et si le plan A marchait pas, il y avait le plan B, C, D, je faisais tout l'alphabet s'il fallait, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui fonctionne pour arriver à ce que j'avais décidé. » Donc voilà, moi, quand on me dit ça, je rigole parce que je me connais, et dans ma tête, je me dis, mais vous me connaissez peut-être pas, mais si moi j'ai décidé que ça allait marcher, ça va marcher. De toute façon, je ferai tout pour. Et il y a, à l'heure actuelle, à part, je sais pas, la maladie ou quelque chose comme ça, il y a rien qui pourra m'arrêter, ça c'est certain. Ça c'est certain, et je ferai tout pour en tout cas.
T'es déterminée.
Ah oui, je suis déterminée comme jamais.
Il faut en plus s'imposer dans le cosmétique. Honnêtement, c'est un océan rouge.
Ah oui.
Mais il y a de l'argent dans cet océan rouge. Mais il est tellement rouge de cadavres.
Ouais.
Et il y a, voilà, et comme on le disait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, mais énormément qui arrêtent et qui n'ont plus le courage, parce que pour moi, il n'y a que le courage.
Mais pour moi aussi, il y a. Presque pas pour critiquer ni rien. Comme je te le disais au début, quand tu t'imposes sur un marché qui est. Je ne dirais pas qu'il est saturé, parce qu'il y a énormément de demandes.
Oui.
Donc voilà, il y a de quoi faire, mais après c'est sûr que si on veut, de toute façon en marketing, hein, ça c'est classique, hein. Soit tu te différencies par ton identité, soit par le prix, soit par ta politique, on va dire, de distribution. Alors soit tu casses tous les prix et tu espères que les gens vont venir chez toi parce que justement tu leur proposes un produit au top, ouais. Avec un bon rapport qualité-prix, mais ça voilà... Il faut gérer des... Voilà,
c'est une politique. Hein.
C'est une politique à adopter, moi, c'est pas la mienne. Moi, j'ai fait le choix de la politique de différenciation parce que pour moi, quand tu t'imposes sur quelqu'un qui est déjà... Oh, pardon. Si tu t'imposes sur un marché qui est déjà bien ancré dans les mœurs et qu'il y a déjà beaucoup de gens, mais la seule façon, il faut te différencier. Comment tu veux que... Si tous les produits sont similaires, comment tu veux qu'un client, il va choisir ton produit plutôt qu'un autre ? Enfin, je veux dire, je suis désolée. Moi qui suis consommatrice de produits naturels, des fois, je suis perdue. Et je choisis une marque, pourquoi ? Oh, parce que celle-là, le packaging, il est plus sympa. Oh, parce que celle-là, je connais la personne qui est derrière, donc elle me plaît bien. J'aime bien sa personnalité, oui, donc j'ai envie d'acheter.
Mais je vais faire une aparté là-dessus. Parce que toi, ton storytelling, il est extrêmement bon à mes yeux, tu vois. J'adore
l'histoire. Non, ça me fait plaisir. Vois,
mais franchement, et en fait, ça m'est arrivé, anecdote. Il y a Bouygues Télécom qui m'appelle aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et il me fait, ouais, vous êtes chez nous et tout. Ouais, c'est normal, je suis chez vous parce que la box, elle est pas chère et moi, je suis... C'est le seul truc où je marge à mort sur mes frais, c'est la box, tu vois. Okay. Genre, je veux à mort gratter, tu vois. Quand je peux gratter tous les ans, je gratte 10 balles. Je suis comme ça, cherchez okay. pas. C'est vraiment le seul truc où je suis psychopathe, tu
vois. Okay.
Et il me fait, par contre, vous avez pas votre téléphone chez nous ? Et je fais, je suis chez Free. Et il fait, pourquoi ? Je dis, parce que j'aime Xavier Niel. Pourquoi vous aimez Xavier Niel ? Parce que leur storytelling, il est ouf. Parce que j'adore ce mec. Parce que je fais partie de sa tribu, parce qu'il mm-hmm. m'inspire. Et j'ai dit, vous avez pas d'histoire, Bouygues, je sais même pas d'où vous venez, vous êtes qui ? Et le gars, il m'a fait, ah bon ? Et il m'a raccroché au nez.
Ah ouais, d'accord. Bah, non, pas mais... d'argument, bah c'est clair, hein, au bout d'un moment, on n'a plus d'argument.
T'es en mode, ouais.
Mais je pense que c'est important, et même moi, tu vois, quand je consomme des choses, en général, c'est. Bon, bien sûr, c'est pour le produit, parce que. Si on reste dans les cosmétiques, moi, ça fait quelques temps que je me suis vraiment intéressée à ça. Voilà, je fais attention d'avoir vraiment des choses naturelles. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi que c'était très compliqué. Hein. Il y avait aussi un vocabulaire adapté. Mmh. Et parfois, on te faisait comprendre ce qu'on voulait te faire comprendre, quoi. Il y avait des choses cachées derrière ce qu'on te disait et ce n'était pas forcément le cas.
C'est-à-dire ?
Bah, je prends un exemple, quelqu'un qui va te dire « Voilà, mon cosmétique, il est 90% vegan. »
Ah, ouais.
Ils ne te disent pas que les 10% qui restent, enfin voilà.
C'est les tests d'animaux, ça.
Voilà, par exemple.
Ah ouais,
ou alors ils utilisent des huiles issues des animaux, tu vois. Donc voilà, il faut faire très très attention parce qu'il y a énormément aussi de.
Oui, si t'es pas entouré d'un labo ouais. bienveillant en fait.
Oui,
tu vas
c'est
dans
ça.
L'air.
Et puis voilà, moi je pense qu'il faut rester, honnête. Et du coup voilà, donc pour en revenir à ce qu'on disait, moi il fallait, hein, c'était quand j'ai monté ce projet, je me suis dit non mais Laetitia, tu peux pas te lancer comme ça, des cosmétiques naturels c'est bien beau, t'aimes bien ça, mais il y en a plein, il faut que tu trouves quelque chose qui arrive à te différencier des autres, et ça a pas été très dur, hein. Moi c'est simple, je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime dans la vie, voilà, qu'est-ce que j'aime dans la vie, bah j'aime bien les cosmétiques, donc du coup. On va se lancer là-dessus. Qu'est-ce que j'aime bien à part les cosmétiques ? Ben, j'aime bien voyager. Et c'est vrai que quand j'ai un petit peu parlé de ça autour de moi, ça a plu tout de suite parce que, comme je te le disais, les voyages, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Rares sont les gens qui aiment pas voyager. Et tout le monde a des anecdotes à te raconter. Ah oui, mais c'est vrai, moi, quand j'étais là-bas. Donc, ce qui est intéressant quand tu voyages, une fois que tu as fait les activités touristiques, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de s'imprégner. Moi, ce que j'aime quand je voyage, c'est de m'imprégner de la culture.
C'est trop bien, c'est le
meilleur. Moi, je veux vivre comme quelqu'un qui vit là-bas. Voilà, je veux qu'on m'apprenne tout ce qu'il y a à savoir des gens qui y vivent, tout ce qu'il y a à savoir en fait. Je veux m'en imprégner. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu transmettre au début avec Cosme Story.
Tu veux faire une gamme de combien de produits? Tu sais, t'as une idée?
Alors là, pour l'instant, je suis à deux. Pour moi, une gamme complète, elle serait entre 5 et 6. Pour avoir vraiment une routine. Donc, une routine, je te parle, c'est. Par exemple, en ce qui concerne le visage, ça va être un exfoliant, un nettoyant, un hydratant, un réparateur, hein, voilà, quelque chose qui répare, un sérum ou une crème. Peut-être, allez, un petit plus, un masque ou quelque chose, quoi. Mais en fait, le but, c'est vraiment d'avoir une routine complète pour que chaque élément de la routine, bah, qu'à la fin, tu aies vraiment quelque chose de concret. Et tu te dis, par exemple, voilà, pour la collection New York, voilà, je suis allée à New York. Et j'ai vu les six choses les plus importantes, les six choses qui sont les plus importantes dans la vie d'un New-Yorkais, on va dire. Après, New York, voilà, c'est bien beau. J'ai de la chance d'avoir voyagé dans
Mais
plusieurs
j'allais dire,
endroits.
est-ce que tu
Voilà.
veux passer
Ah
sur
oui!
une
Ah,
autre
mais moi, j'ai
ville?
hâte! Mais moi, j'ai hâte! Bon, j'adore New York, hein, mais moi, j'ai hâte de partir sur une autre destination. Je pense que la prochaine va être un petit peu plus ensoleillée. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir fait un road trip en Californie qui m'a énormément inspirée aussi. Et j'avoue que franchement, j'ai en tête des choses très très
Tu restes sur
sympas.
l'Amérique pour l'instant?
Alors, à voir. Moi, j'étais partie sur cette idée. Après, la Californie, c'est quand même quelque chose qui se voit un peu plus,
Ouais.
surtout en ce moment. Donc, je serais plutôt pour partir sur des destinations un peu moins connues. Donc, peut-être les îles Baléares, l'Italie du Sud dont je suis originaire. Tu vois, des choses que les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude de voir, mais où il y a aussi une extrême richesse. Donc, ça, je vais voir. Je demanderai à mes abonnés, comme d'hab, où est-ce qu'ils ont envie un peu d'aller. Et après, ça sera mon job, quoi. Et le but par la suite, c'est. Voilà, ça, c'est des destinations où je suis déjà allée. Mais voilà, j'imagine dans un futur. J'imagine bien un truc un peu du style salut, voilà, j'ai un prochain voyage à planifier. Je vous donne le choix entre trois destinations, c'est vous qui choisissez où je pars. Et le but, c'est de partir et de faire, de montrer ça et de faire, de, comment dire, d'impliquer mes abonnés là-dedans et de leur faire vraiment vivre le truc en même temps que moi, quoi. Ça, c'est ce que manque de peau. J'ai décidé de choisir New York une fois que j'étais rentrée. Mais si, voilà, le but, ce serait vraiment de faire ça.
Vraiment les qui vivent l'histoire avec
C'est
toi.
ça, de vivre l'histoire, enfin, qui vit vraiment les émotions et les instants, on va dire à l'instant T, en même temps que moi. Et après, dire voilà, qu'est-ce que vous avez préféré, alors selon vous, maintenant que vous avez suivi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui vous plairait de retrouver dans la gamme et tout ça. Moi, c'est important qu'il y ait vraiment, qu'on bosse vraiment main dans la main, quoi.
Ouais, c'est une bonne tribu que tu fais.
Ouais.
À mesure. T'as vraiment marqué une tribu. Bonjour,
Ouais, c'est un peu
je
ça.
suis dedans. Mais ouais, c'est Seth Godin qui a parlé du marketing de tribu, genre il y a avant Facebook, c'était un truc
Il y a beaucoup de
hyper
concepts qui ont
ancien.
été mis en lumière il y a longtemps et qui commencent un petit peu à émerger. Hein. Beaucoup de choses, on pense que c'est nouveau alors
Non,
que
ça
pas vraiment.
date des. Ça fait même peur en fait. Quand tu reviens dessus, tu fais ah ouais, genre là on parle du storytelling, comme si ça existait depuis 3 ans, j'ai
Non,
l'impression.
non,
Non,
c'est
mais
pas.
alors que ça date de.
Oui, sauf que là, on a mis un mot, c'est le storytelling.
Voilà. Et genre, moi j'adore, c'est genre le livre de Edouard Bernays, c'était Propaganda.
Connais de nom, mais je l'ai jamais lu.
Alors c'est assez passionnant et assez. Ça
Mais
fait
tu pourras me le
peur,
prêter.
tu vois, ben, je l'ai, je pourrais te le prêter, ça fait peur. Alors, on arrive quasiment à la boue, hein, au bout du podcast.
Ça passe vite.
J'aimerais savoir quel est ton plus grand défaut d'entrepreneur?
Mon plus gros défaut, j'en ai plein.
Oh, faut pas dire
Non,
ça,
non.
rien de ça.
Je pense que mon plus gros défaut, c'est l'impatience. Je veux les choses tout de suite.
T'as combien été patiente, hein, 18 mois?
Oui, alors attends, hein, parce qu'avant, c'était pas gagné. Hein. J'avoue que mon expérience a fait en sorte que maintenant, voilà, j'arrive à peu près, mais je pense que c'est mon plus gros défaut. Et je suis perfectionniste aussi.
Ah, ça, c'est un saboteur, hein.
Ouais. Alors, heureusement, pareil, j'ai un peu. Je jauge. Mais on va dire que c'est ça. L'impatience, parce que, voilà, c'est vrai que quand j'ai décidé quelque chose, j'aime bien l'avoir tout de suite. Bon, manque de peau. Quand tu fais entrepreneur, ben, t'apprends vite que.
L'impatience, c'est.
Voilà, c'est pas ton meilleur pote. Perfectionniste parce que ouais, j'aime bien que tout soit nickel. J'ai appris au début, hein, je refaisais beaucoup de choses. Maintenant, j'ai appris que ça va rien. Et si je peux en citer, on va dire un troisième.
J'en demandais qu'un, mais vas-y, hein, c'est un.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais allez, je
Vas-y.
suis dans le move. On va dire que c'est. J'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions.
Et ça va mieux?
Ça va beaucoup mieux.
Parce que tu peux prendre les choses tellement à cœur quand
Ouais.
tu mets dans un projet.
Ouais.
C'est le plus dur de s'en
Ça a été
détacher.
dur. De pas t... On va dire ça, de pas trop prendre les... de pas prendre les choses trop à cœur.
Ouais, même. On va dire que le monde dans l'entrepreneuriat est un monde de requins et un monde dur, surtout quand c'est un petit réseau. On n'en parlera pas plus que ça. Mais.
Peut-être pour une
Non,
prochaine fois.
mais faut faire attention en fait à... et se méfier des fois des gens. Et quand ils peuvent te percuter ou te dire des choses mal ou t'entendre des trucs sur toi, c'est dur à gérer aussi.
C'est dur à gérer un peu parce que, bon, bien sûr, moi, ça m'est aussi arrivé de critiquer, hein, mais je pars du principe que quand je dis quelque chose, c'est pour que la personne, elle puisse en tirer quelque chose de bien. Le
Oui, mais dans
but,
ton dos,
voilà, le
c'est
but,
pas
oui,
ouf, ça.
voilà, dans le dos, qu'est-ce que tu peux faire? Mais le but, quand même, c'est que quand tu dis quelque chose, c'est que la personne puisse prendre ce que tu lui dis. Sauf si tu pars vraiment du
Ouais, mais.
principe que tu as dit ça parce que tu ne veux pas que la personne réussisse.
Après, ça, c'est pas pareil. Faire un feedback à quelqu'un parce que tu es quand même sa cible potentielle. En France, on a du mal avec les feedbacks. Alors, moi, je trouve que c'est
Oui,
hyper
c'est vrai.
important, tu vois.
Ben ça, c'est encore un truc que j'ai appris aux États-Unis, hein.
Mais en France, ça, ils commencent à se réveiller, les gens, en mode, en fait, on veut un feedback. Ok, pourquoi tu demandes à tes potes si c'est pas ta cible? En fait, on en a
Mais
rien à
c'est ça.
foutre.
Mais moi, en fait, c'est ce que je fais tout le temps. Au départ, bien sûr, tu te tournes vers ta famille et tes
Ouais.
amis. Mais moi, les abonnés, alors j'ai de la chance, c'est que voilà, j'ai quand même une communauté qui est vraiment. Enfin, franchement, ils m'apportent énormément de choses. Ils me soutiennent, mais vraiment, dès que j'ai besoin de quelque chose, franchement, ils sont vraiment au top. Et ça aide vachement, quoi.
Et c'est ta cible.
Ça aide vachement. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je leur demande. Pas parce que j'ai besoin de leur validation pour faire les choses, mais parce que moi, le but, Enfin, je fais partie des entrepreneurs qui, ce que je fais, le but, bien sûr, c'est que ça me plaise à moi, mais le but, c'est que je fais les choses pour les autres. Donc, mon but ultime,
Oui, c'est la valeur que tu apportes aux
voilà,
clients.
ce qui va me rendre heureux, enfin, heureuse en l'occurrence, c'est que la personne en face de moi soit contente. Que quand elle prenne un produit Cosmestory, elle se dise, bah, je suis contente parce que déjà, on m'a pas menti. Voilà, tout ce que j'ai vu, je le retrouve. Donc, c'est fidèle à ce qui a été dit. La composition, franchement, elle est top. Il n'y a pas de risque sur ma santé. Et en plus, la personne derrière, elle est trop bien, quoi. Elle est honnête, elle est sympa. Et en plus, elle me fait sentir que je sers à quelque chose, quoi. Je suis pas juste un simple client. Je fais partie intégrante du truc, quoi. Et moi, c'est ça que je voulais. Et quand on me demande à la base la raison, on va dire, ça, en podcast, en interview, on aime bien te demander, mais c'est quoi la
Y a
valeur
jamais... C'est moi
ajoutée,
qui dis
la
jamais... Moi, je
raison
pose jamais cette
d'être
question, tu
de
vois.
Cosmestory? Moi, je leur disais toujours, le message que je peux faire passer, le but, ça a été de, je te donne un produit qui est 100% clean, parce que pour moi, quelqu'un qui utilise un cosmétique, il n'a pas à se poser des questions du style, est-ce que ça va être bien pour ma peau? Est-ce que ça va être néfaste? Est-ce que c'est bon pour l'environnement ou pas? Est-ce que ça fait du mal à des animaux? Pour moi, c'est des questions qui ne devraient pas exister. Donc le but, en fait, c'est que toutes les interrogations et tous les risques, ils soient éliminés, et qu'en fait, tu puisses te concentrer que sur le positif. Et le positif, dans ce que je fais, c'est le voyage.
T'as déjà essayé ton produit avec l'application là? Parce qu'il y a plein. Non,
Alors
parce que
laquelle?
c'est
Alors
pas.
mon...
Parce que je sais qu'il y en a, ils disent même pas les bons trucs, tu vois.
Alors moi je me suis pas trop penchée
Non, mais
là-dessus.
voir s'il y avait des notes, etc. Il y avait des retours clients,
Alors
s'il avait
mon...
testé.
moi j'ai eu une interview il y a pas longtemps avec Composcan qui a fait une application, je sais pas si tu connais.
De non.
Qui a fait une application justement pour cibler les cosmétiques et pour donner des notes et donner des
Voilà.
indications sur les compos. Moi, j'étais contente parce que du coup, ma compo, elle était...
Oui, parce que des fois, il y a deux applis. Et il y a une appli, genre, t'es nul, et il y en a une, t'es bien, tu vois. Je sais pas comment ils font ça.
Après, je suis pas... Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Après, honnêtement...
Bah, si t'es clean, t'es clean, de toute
Voilà, moi
façon.
j'ai absolument, moi je veux dire, pas de problème. S'ils veulent m'analyser mes produits, il n'y a pas de souci, je sais ce que j'ai mis dedans.
Voilà.
Et voilà. On trouve très peu de cosmétiques qui sont 100% naturels. Il y en a très peu. Ça n'existe quasiment pas. Moi, je sais que c'est du 100% naturel. Je sais d'où vient ce qu'il y a dedans. Voilà. De toute façon, tout ce qui est huile, eau de rose, tout ça, c'est que issu de l'agriculture biologique. Je sais d'où ça vient. En plus, ça vient de France. Je sais exactement d'où. Et voilà. Je peux. N'importe qui veut tester le produit, il n'y a pas de souci parce que je sais ce qu'il y a dedans. Et je sais que c'est clean et qu'il y a absolument. Aucun souci, ça a été testé sur tous les types de peau, tous les problèmes possibles et inimaginables. je suis convaincue, en tout cas, la qualité, c'est sûr qu'elle est là, quoi.
Ensuite, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte?
Ce que je déteste faire.
Il y a un truc, si tu pouvais déléguer, mais direct.
Ce que je déteste
faire. Hors compta et administratif, moi, j'en ai marre qu'on répond les mêmes choses.
Non. Franchement, je sais pas, il n'y a pas vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Hein.
Ça va, il n'y a pas trop autre
chose. Non, vraiment, à partir du moment où, tu vois, dans ma tête, je sais que chaque chose a son utilité. Voilà, après, ce que j'aime pas faire, on va dire, ce serait peut-être faire les mises en scène et les photos de produits. Ça m'énerve parce que...
On t'aide, non, là-dessus ?
Ouais, alors j'ai rencontré un super gars qui s'appelle Thaï, qui a un compte photo juste énorme.
Et qui a pas le Séoul, là ? Non.
Ah non, par contre il y va tout le temps.
Ah,
mais j'ai eu de la chance d'avoir rencontré ce gars. Il est juste génial et il a un talent monstre. Mais monstrueux. Alors il est plutôt dans la photo de voyage, mais quand je lui ai demandé s'il pouvait m'aider, lui ça lui plaisait parce que c'était quelque chose qu'il avait pas souvent fait. Il m'a fait des photos de ouf, donc je suis vraiment très contente. Voilà, c'était quelque chose que j'aimais pas faire et je me sentais pas du tout à l'aise. Voilà, c'est pas mon métier. Hein. Moi faire des photos, faire des mises en scène, je suis... Voilà, j'ai pas... Tu vois, il y a des gens, ils arrivent à te dire... Ah ben on va mettre ça avec ça sur tel fond et tout, ça va être magnifique. Et toi t'es là pendant une heure et tu vas te dire mince, comment je vais mettre mon produit avec la lumière, enfin c'est trop compliqué. Donc ça je détestais faire et j'ai eu de la chance d'être tombée justement sur lui. Maintenant on est de très très bons amis et je suis très contente de pouvoir compter sur lui. Ah, sinon à part ça, il y a pas d'autre chose.
Mais il faut s'entourer de personnes meilleures que nous, sinon c'est impossible.
De toute façon personne ne peut réussir seul.
Non.
Chacun ses facultés, voilà, ses aptitudes. Après voilà, il y a des métiers. Tu t'improvises pas, il y a des choses, tu peux pas improviser. Ou alors, tu peux le faire. Par contre, ça va te demander... Il faut être prêt à accorder du temps. Et voilà.
On est déjà assez patient pour des gens impatients dans l'entrepreneuriat.
C'est ça.
Donc si on peut déléguer un peu et mettre un peu d'argent. Des fois, il faut regarder sa carrière et faire « Vas-y, je mets de l'argent, tant pis. »
Faut jauger.
Voilà.
Question d'importance, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin ou pas ?
Et ça qui est le plus dur ?
C'est dur.
De choisir, ok, faut que je vois qu'est-ce que je dois travailler absolument aujourd'hui et je serai contente. Et ça, c'est, on s'en fout, en fait.
Mais après, tu vois, y a, ça, c'est ce que je dis souvent aussi, il n'y a pas de méthode écrite. Hein.
Impossible. Oh, ça
tu sais qu'au début, je me mettais énormément la pression, je lisais beaucoup de livres en coaching, en développement personnel et tout.
Ah non, faut pas.
Et en méthode d'organisation. Et moi, j'étais frustrée parce que j'essayais des méthodes, sauf qu'en fait, j'avais pas compris que ça servait à rien que j'adopte une méthode si c'était pas la mienne, en fait.
Oui, parce que c'est la personne qui te la vend. Mais voilà. L'utilise.
Donc c'est vrai que moi au départ avoir des to-do list absolument partout et tout, en fait ça ne faisait que me stresser. Et ce que je faisais c'est que par exemple sur une to-do list j'avais 10 trucs et que j'en faisais que je sais pas 5, et ben pour la to-do list du lendemain, je rajoutais les 5 que j'avais pas fait, tu vois le truc.
Ouais, donc t'avais une to-do list.
Voilà, et du coup,
du papier toilette pour toi.
Ah mais du coup, j'étais perdue, j'étais là de toute façon, t'as déjà pas envie de démarrer la journée, ce que tu te dis, déjà ça a pas commencé que jamais de la vie je pourrais finir quoi. Donc il faut bien se connaître, il faut être à l'écoute de soi et il faut trouver ce qui te correspond. C'est plus important.
Et des moments et des pauses, des moments off dans la semaine. Ça qui travaille les week-ends, etc. C'est à vomir. Moi j'ai fait un burn-out quasiment.
Oui. Bon, après ça je vais pas dire, je l'ai fait.
En finissant le confinement, j'ai travaillé pendant 2 mois confinement non-stop à me former. J'ai pris au moins 80 heures de formation et
tout. Ah oui, d'accord.
La dernière semaine, ça a duré un
petit laps de temps. Faut pas non plus que ça s'instaure dans la durée. Hein.
Ah ouais, c'est pas
tu peux le faire, moi je l'ai fait. Hein. Mais tu comprends vite qu'à ce rythme-là, tu ne peux pas y arriver.
Donc les gens qui travaillent tout le temps, lever le pied.
Ouais, moi j'ai instauré des trucs dans mon quotidien. Déjà, quand j'en ai marre. Tu vois, avant je culpabilisais. Maintenant je me dis non, j'en ai marre, je n'arrive plus à travailler. Eh ben, tant pis. Je vais marcher une demi-heure, ça va me rafraîchir les idées. Au passage, je vais peut-être voir une copine ou quoi. Alors, on discute un peu et je reviens.
Même plus, ça fait travailler ton subconscient,
bien sûr.
Promènes, etc.
Et puis en plus, l'inspiration, elle est partout. Hein. Des fois, je me balade, je me dis, ah, ça, ce serait bien pour Cosme Story. Ou quand tu parles avec quelqu'un, ah ouais, bah, lui, il m'a dit ça la dernière fois, c'est vrai que c'est pas bête. Mais voilà, je veux dire, non, c'est pas possible. Enfin, après, ça dépend des gens, mais moi, je peux pas. Moi il faut des pauses où je bosse 2 heures en 2 heures. Mais pas plus, sinon je.
Normalement, il faut faire 20 minutes. Hein. Normalement, il faut faire 20 minutes.
Ah ouais
20 minutes. Ouais, 20 minutes, 5 minutes de pause.
D'accord.
Parce que c'est. Ton cerveau n'est que actif 20 minutes. Enfin, pas actif, mais genre, il arrive à travailler, tu vois, 20 minutes d'affilée, et après, il sature.
Après, c'est ça, je pense, le côté négatif, on va dire, quand tu bosses à ton compte, c'est que t'as pas quelqu'un qui te dit « Bon, maintenant, faut rentrer chez toi.
Oui, »
Donc moi, je sais que des fois, je commençais un truc, mais moi, j'aime bien que les choses... J'aime bien que quand j'arrête, bah, ça soit fini. J'aime pas arrêter un truc en cours de route.
Parce que t'es pas cadre, hein, parce ah, que ouais. partie finie, t'es encore là-bas pendant...
Ah bah moi, j'aurais fait une bonne affaire, hein, parce que... non, mais c'est vrai que voilà, moi, ça m'est arrivé de travailler... qu'il y a des soirs, je travaillais, je me souviens qu'au tout début, j'avais des potes qui sonnaient chez moi à 20h, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah écoute, je travaille. Ils me disaient, mais là, tu travailles plus, c'est plus l'heure. Maintenant, tu t'habilles, tu descends, on y va, quoi. On reste ensemble, on fait quelque chose. Et quand t'as pas de... C'est pour ça que même je demandais à mes potes, quand tu pars déjeuner, tu peux m'appeler s'il te plaît? Comme ça, je sais que c'est l'heure où il faut que j'arrête, que je mange. Des fois, je mangeais même pas. Hein. Des fois, je me réveillais, genre, réveillais dans le sens, voilà. Des fois, je regardais l'heure, il était 15h, je me disais, ah mince, j'ai oublié d'aller manger. Ah ouais! Mais ça, c'est au début, voilà, tu testes, maintenant, je fais plus ça. Maintenant, plutôt que. Ça, je le disais aussi, plutôt que. Prendre des rendez-vous tard le soir ou entre midi et deux, ben des fois j'appelle des contacts, je leur dis t'as quoi de prévu au petit-déj, vas-y viens, ben pour une fois ça change, on se retrouve à 8h, 8h30, ça fait bien commencer la journée, voilà j'essaye un peu de...
varier.
Voilà.
Mais t'as raison. Est-ce que t'as une anecdote honteuse dans le monde de l'entrepreneuriat? T'as vécu genre un peu malaisant?
Honteuse, je sais pas, malaisant je dirais... Alors, le plus malaisant, je pense que ça a été mon premier rendez-vous chez mon premier banquier. J'étais pas bien du tout. J'étais mal. Et je suis arrivée. Et en fait, j'étais préparée. Hein, je m'étais fait tout un... Voilà, j'avais mon dossier, mon projet était clair, voilà. Mais en fait, il m'a fait tellement comprendre que j'étais rien et que ce que je faisais, c'était naze, que je me suis sentie mal. Et le problème, c'est que quand on... Je veux dire, on t'instaure ça déjà. Il est arrivé, je m'attendais à ce qu'on m'accueille un minimum. Non, il était assis sur sa chaise.
Oh là là.
Il attendait que je m'assieds.
J'ai même pas accueilli ta main.
Donc c'était... Ouais, non, franchement, j'étais trop mal. J'étais trop dans le mal, c'était tout au début. Donc voilà, en plus, t'as la pression, quoi. T'as le banquier devant toi. C'est quand même lui qui va un peu décider si ton projet, il va réussir ou pas, quoi.
C'est une position qui se met, mais c'est...
Ah oui, j'étais pas bien du tout. Et ouais, je pense que ça a été l'expérience la plus malaisante de mon cursus. J'ai pas eu d'autres expériences honteuses ou malaisantes jusque-là.
Non,
ça va. Si, une fois quand j'ai mis un colis, j'avais préparé plusieurs colis en même temps et je me suis trompée de nom. Parce que je mets toujours un petit mot avec le nom de la personne et je me suis trompée de nom. Ça, c'était malaisant. Mais la personne, elle a rigolé, elle l'a pris à la rigolade. Et voilà, pour me faire pardonner, je lui ai renvoyé un petit cadeau derrière.
Ouais, donc ça s'est bien passé. Les trucs. Ah, c'est mignon ça, tu mets un...
Oui, un je mets nom. Toujours, j'envoie à Marie. Je dis, ben, merci Marie pour ton soutien, j'espère que ce cadeau te plaira.
Ça, c'est trop
bien. Moi, c'est le genre de petite attention que j'aime bien avoir.
Mais c'est génial.
Donc je le fais.
J'adore. Moi, je trouve que tu
penses. Donc, je me suis rattrapée un peu.
Je pense que t'as fait dans le marketing et tout, t'as des notions de com, parce que bien sûr, t'as fait un MBA, quoi. Mais tu fais des trucs quand même qui donnent envie de continuer, en fait, avec la marque, parce qu'il n'y a personne qui fait ça, tu vois.
Bah, pour moi, c'est toujours le. Pour moi, j'ai pas du tout à me forcer parce que
oui, tu fais naturellement.
Je le fais naturellement, moi, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de généreux, pour mes amis ou quoi, je donne tout, je donne du temps, toutes les ressources que je peux investir en eux, je le fais. Donc pour moi, c'est naturel. Moi, j'ai envie que la personne en face, elle se sente bien.
Ah, mais
c'est le but, tu vois. C'est qu'elle soit contente, je veux que le produit lui plaise, que ça lui plaise en fait, et qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle a dépensé de l'argent. Ça, c'est le pire qui puisse m'arriver. Que quelqu'un ait l'impression d'avoir mal dépensé son argent, ou de se sentir... je trouve pas le mot, de se sentir un peu...
Lésé.
Ouais, lésé. Genre, j'ai dépensé ça, mais je m'attendais à tellement mieux. Ça, c'est ma pire hantise, en fait. Hein.
Même quand t'es client. Hein.
Ah oui. Bon, après, voilà, moi, je me...
Non, mais pas par rapport à ta marque, mais il y a des trucs, des situations...
Bah, moi, je sais que je suis une cliente exigeante. Il y a des choses que j'aime bien, d'autres beaucoup moins. Donc, voilà, j'essaye que la personne passe un bon moment. C'est quand même le but.
Et donc... La dernière question de ce podcast.
Qu'est-ce que ça va être?
C'est toujours la même. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire. Ça, je pense que ça a été le plus beau conseil. Crois en toi. Va au bout des choses. Et ouais, ne laisse jamais personne te dire que tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a tellement de gens... Moi, par exemple, je fais partie des gens qu'on n'attendait pas.
C'est le meilleur.
Voilà.
Je pense que c'est genre... Parce que je pense que dans tes études, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs.
Non.
Ouais, c'est pas une filiale entrepreneur.
Non.
Ceux-là qui font ça pour être entrepreneur, ils n'ont pas compris. À mes yeux. Enfin, non.
Bah, question de sens, moi, pour moi, pour moi, mais tout toi, ce que j'ai fait pendant 5 ans m'ont permis à assumer et à gérer dans la position dans laquelle je suis maintenant.
Ouais, mais
on m'a donné tous les outils pour le faire.
Non, mais c'était pas l'idée.
Mais c'était pas l'idée. Enfin, c'était voilà. Pas l'idée. C'était pas une filière entrepreneuriale.
Voilà, non, on est d'accord.
C'est ça.
T'es une des. Ouais. T'es venue.
Non, on m'attendait pas du tout, même en rapport avec. Voilà, ma personnalité, personne, et personne ne. Enfin, de mon entourage, personne ne pensait que j'allais faire ça, et surtout que j'allais aller au bout. Hein.
Tant mieux.
Donc, je pense que c'est une belle revanche aussi.
Tu m'as inspiré des gens, tu vois, par ton parcours.
Bah, j'espère. Moi, franchement, hein, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Hein. Pour moi, si des gens qui ont des idées, des projets. Ou envie d'y aller, pour moi, si je peux être un petit grain de sable dans le truc, tu vois. Mais si je peux, si grâce à moi, ils peuvent juste se dire, au moins, peut-être que je peux y arriver, bah, franchement, c'est tout bénef. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau.
Bah, ce podcast, il est aussi là pour inspirer des gens.
Bien, bah, c'est pour ça que je suis contente d'être là et que ça me parle totalement.
Donc voilà, on a fini ce podcast. Donc je te remercie d'être venue, d'avoir pris du temps.
Enfin, merci à toi. Franchement, j'aurais pu rester là toute la journée. Voilà. Pas de problème.
Ils le savent pas, mais on a beaucoup parlé avant.
Oui, en fait, je suis là. Je suis restée toute la journée.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami, peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.